Merci beaucoup d'être branché à l'Alpha 10-13 de Radio Alpha. Je suis maintenant avec Thiago Martins. Bonjour Thiago.
Bonjour Didier, bonjour à tous.
Fondateur du compte Instagram Portuguese Facts et auteur notamment de l'histoire du Portugal dans mon assiette, que tu es déjà venu présenter dans cette émission, tu viens aujourd'hui nous parler de ton dernier ouvrage, L'Imagier des petits lusophones. Raconte-nous la genèse de ce livre et surtout explique pour nos auditeurs et auditrices qu'est-ce qu'un imagier.
Alors, ce projet, je l'avais en tête depuis un moment. Après la sortie de mon premier livre, là justement sur l'histoire de la gastronomie portugaise et l'influence de la gastronomie portugaise dans le monde, j'avais envie de continuer à faire des livres, à continuer à parler de notre culture, de notre langue, de notre histoire. Et donc j'avais une idée d'imagier, justement donc un livre illustré pour enfants qui me trottait dans la tête depuis un moment, mais je m'étais pas attardé plus que ça sur le sujet. Et là, depuis 2 ans, je suis papa. Et donc du coup ça a changé beaucoup de choses et je suis confronté à ces imagiers et je vois que mon fils justement adore ça, adore les imagiers, et je me suis dit tiens, pourquoi pas en faire un. Et surtout que pour moi l'apprentissage de la langue portugaise, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de transmettre à mon fils. C'est un combat qui est dur à mener dans la communauté portugaise, justement. On en parle souvent, mais rien qui se passe. Et donc comme pour mon livre, comme pour mon compte Instagram, comme pour tout ce que je fais dans ma vie, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc je me suis lancé. J'ai proposé cette idée à Sandra, mon éditrice de Catamos Éditions.
Sandra Cani Veda Costa.
Exactement. Qui m'a fait confiance, les yeux fermés sur ce projet. Elle m'a dit, OK, j'ai carte blanche. Elle m'a juste demandé de lui envoyer les devis, qu'il y avait pour les valider. Mais à part ça, j'ai eu carte blanche. J'ai vraiment j'ai fait le livre dont je rêvais, que j'aurais aimé avoir quand j'étais petit. Et j'ai pensé ce livre, justement, L'Imagier des petits lusophones, comme une série. Donc ça sera une série de 4 ouvrages. Le premier est sorti là, qui s'appelle Vive les vacances, justement, qui retrace, enfin on en parlera un peu plus après, ce qu'a été notre vie, la préparation des vacances, les retrouvailles avec les grands-parents, les fêtes de village, la plage, toutes ces scènes vraiment qui sont propres à notre histoire pour transmettre du vocabulaire. Et le numéro 2 sortira, est déjà en préparation, sortira pour Noël, et 2 autres l'année prochaine.
Et tu as été accompagné dans cette aventure par une excellente illustratrice.
Oui, Roman Mendes, c'est une illustratrice que j'avais repérée sur les réseaux il y a quelques temps, avec qui j'avais échangé et avec qui on avait eu des projets, notamment un projet d'affiche des petits portugais, une affiche goodies que je vais distribuer par exemple lors de festivals, ou des fois que je distribue quand je vais rencontrer des lecteurs ou des gens qui suivent mon compte. Et donc j'étais resté en contact avec cette illustratrice et j'ai directement pensé à elle, puisque c'était très important pour moi que l'illustratrice ou l'illustrateur, mais bon là c'est une illustratrice, ait ce lien avec la lusophonie et avec le Portugal. Je voulais vraiment que, parce que moi je lui ai fait des croquis de ce que j'avais en tête, mais je suis pas du tout dessinateur, donc je voulais vraiment qu'elle comprenne au premier coup mon médiocre dessin, ça la touche et qu'elle puisse la réinterpréter et magnifier justement cette imagée. Et elle a fait un travail incroyable, notamment avec les couleurs aussi. Elle a utilisé des couleurs qui étaient très vives, auxquelles j'aurais jamais pensé. Et je l'ai invité aussi à ajouter des éléments qui étaient propres à son histoire. Mm-hmm. Parce que moi, bien sûr, je me suis basé sur mon vécu, j'ai fait des clins d'œil à mon village, à ma région. Et donc, du coup, elle aussi a intégré, par exemple, dans le livre, un Andor de Vila Real, justement, des Andors qui sont énormes, qui sont propres, justement, à son histoire à elle. Et c'était mm-hmm. pour moi, justement, intéressant aussi d'avoir des éléments qui ne soient pas que liés à mon histoire à moi.
Et comme tu le disais à l'instant, cet imagier des petits lusophones, tu l'as pensé en 4 volumes. Celui-là s'appelle Vive les vacances, mais on a Découvrons le Portugal, Voyage dans le temps et Le tour du monde qui arrive.
Exactement. Donc c'est parce que le but, c'est bien sûr de transmettre la langue portugaise. Donc là, dans le premier, il y a plus d'une centaine de mots. Donc à la fin, quand il y aura les 4, j'espère avoir transmis plus de 500 mots. Donc c'est quand même un bel objectif. Bien sûr, ça c'est pas un livre pour apprendre la langue portugaise. Hein. Ça ne remplacera pas un professeur. Bien que faut trouver des professeurs, ça c'est un autre débat. Ça ne remplace pas un professeur, mais je me dis que ça peut être un premier pas, ne serait-ce que pour mettre un premier pas dans la langue portugaise, d'avoir quelques mots, quelques notions pour pouvoir communiquer avec la famille qui est restée au Portugal, avec les amis, et d'avoir justement ce vocabulaire et cette culture, parce que c'est un imagier qui est vraiment, parce qu'il y avait des trucs, j'ai regardé sur internet ce qui existait, il y avait des imagiers, mais pas des imagiers business, on va dire. C'était vraiment des trucs où les gens avaient créé un livre sur internet en utilisant des images génériques sur internet, en mettant par exemple un chat qui écrit gâte ou chat, et bon, là, il y avait rien derrière de construit. Là, ce livre là a vraiment été pensé par des gens de la communauté, pour des gens de la communauté. Mmh. Donc c'est vraiment des scènes qui représentent notre réalité. C'est vraiment, même si on lit pas les mots, les scènes vont nous toucher, les scènes vont nous rappeler des choses. Donc c'est vraiment des mots qu'on utilise réellement dans notre quotidien. Par exemple, là, l'imagier des petits lusophones, il y a une scène justement, c'est le voyage. Donc on voit la voiture, la route, l'avion, le bus, voilà. Donc c'est vraiment des mots qui nous sont, les bagages, donc des mots qui nous sont propres. Et j'ai mis aussi un point d'honneur à mettre des mots parce que on entend souvent parler de frantugais, mais moi je n'aime pas ce mot de frantugais. C'est mm-hmm. on parle français ou portugais. Bien sûr, on fait des fautes, hein, c'est normal. Mais j'aime pas ce fait de créer une sorte de nouvelle langue. Par exemple, poubelche. Moi, j'ai demandé à l'illustratrice. En plus, en dernière minute, je lui ai dit non, faut qu'on mette une poubelle dans la scène de la maison pour pouvoir mettre lixo.
Exact.
Pour exactement représenter ça. Soufa et pas canapé. Donc voilà. Donc il y a des petits clins d'œil comme ça aussi. Il y a des erreurs qui sont communes dans la communauté.
Oui, une certaine rigueur de langue. Tu veux que le vocabulaire transmis soit le vocabulaire exact.
Voilà. Après, bon, la rigueur. Encore une fois, c'est un livre pour enfants à partir de 18 mois. Donc voilà, c'est pas une œuvre littéraire. Je suis pas Esat Queiroz ou Fernando Pessoa, mais
pas
en plus loin de là. En plus dans la vie quotidienne et notamment sur mes posts sur Instagram, je fais beaucoup de fautes. Donc je suis loin d'être rigoureux. Mais voilà, tant qu'à faire, autant transmettre le bon portugais aux plus jeunes. Et donc pour revenir à l'enseignement de la langue, justement. Donc, usuellement, ce que je vois, ce qui est dans les us et coutumes ici en France, c'est d'apprendre à partir du CE1, justement, à l'école avec des professeurs quand c'est possible. Mais pour cette jeune génération, vraiment, donc à partir de 18 mois, entre 18 mois et peut-être 3 ans, il n'y avait rien qui existait et il y a un fossé, justement, et c'est très important dès le plus jeune âge, justement, au moins avoir les notions, parce que donc il y a les mots de vocabulaire et j'ai aussi des parties, c'est pour. Les mots basiques, bonjour, merci, au revoir. Donc voilà, donc c'est j'espère que ce livre sera un outil de transmission pour le plus grand nombre.
Oui, et puis les fêtes, les numéros, les couleurs aussi.
Ouais, c'est ça. Et donc ça serait une continuité. Dans chaque volume, bah il y aura d'autres couleurs, il y aura d'autres voilà, il y aura d'autres petites choses. Et sans voilà, on va donner un petit spoil justement dans ce livre là.
Mm-hmm.
Donc les couleurs, j'ai fait le choix. Donc dans les 4 volumes, ça sera 3 animaux de couleurs différentes pour à la fois donner le vocabulaire d'un animal et d'une couleur.
Mmh.
Et donc pour ce premier volume, c'est l'aigle rouge, le dragon bleu et le lion vert. Et je pense que tout le monde comprendra pourquoi.
Absolument. Ce petit imagier des petits lusophones, ce premier volume en tout cas, Vive les vacances, que tu as dédié à un petit Oscar.
Oui, c'est mon fils.
Ton fils. Comment tu choisis les mots et les thèmes justement ?
Alors les thèmes, donc voilà, j'ai fait une architecture, donc comme j'ai pensé ça dès le début. Pour moi, c'était une série obligatoirement. Ça pouvait pas se limiter à un seul livre parce que ça aurait été trop dense, trop fouillis. Et j'aimais bien que vraiment chaque livre ait sa thématique. Donc là, le premier, Vive les vacances, c'est cette histoire. Donc on voit une scène, c'est à la maison, donc pour les mots de la maison. Une scène, c'est le voyage, pour les mots du voyage. Une scène, c'est les retrouvailles avec les grands-parents. Une scène, c'est à la plage. Une scène, c'est à la fête du village. Et une scène, c'est le dîner de famille. Donc voilà. Donc c'est des scènes qui nous parlent à tous. Et qui sont propres, voilà, à des gens qui partent en vacances au Portugal pour le pèlerinage annuel du mois d'août.
Mmh.
Et donc le deuxième volume sera lui axé plus vraiment sur la découverte du Portugal. Donc ça sera un voyage du Portugal du nord au sud en passant par les îles pour découvrir les traditions, le folklore, les animaux qui sont propres au Portugal, la nourriture propre au Portugal. Donc voilà, donc le deuxième c'est un voyage à travers le Portugal. Le troisième, ça sera un voyage dans le temps, donc on partira.
L'histoire du Portugal cette fois.
Après l'histoire du Portugal, mais faut toujours remettre du contexte. C'est un livre pour enfants, donc on partira des dinosaures, parce que les enfants aiment bien les dinosaures, donc il y aura les dinosaures, les grottes, les fosses comme ça, le Moyen Âge, la période des découvertes maritimes, bien sûr. Donc voilà, ça c'est pas un livre d'histoire, mais c'est visuellement on va comprendre qu'il y a eu différentes scènes et différentes époques dans l'histoire du Portugal.
Mmh.
Et enfin le dernier, le quatrième, c'est pour la lusophonie, puisque c'est quand même l'imagier des petits lusophones, et on ne parle pas portugais. Qu'au Portugal, une langue très importante et une langue, en fait, donc juste pour revenir sur ça, donc le quatrième sera la lusophonie au sens large, donc avec le Brésil, les Indes, l'Afrique lusophone, et donc voilà, donc ça sera des scènes dans les différents pays de la lusophonie de façon générale et des petites traditions, petits clins d'œil à chaque pays lusophone. Mais pour en revenir justement à cette promotion de la langue portugaise, je trouve ça quand même déplorable que la langue portugaise en France soit vue comme une langue communautaire. Ce qu'elle est, c'est vrai, on va pas mentir, mais elle est bien plus que ça. Enfin, même moi, dans mon travail, je le vois que le portugais est une langue de travail.
Mm-hmm.
Et il faut qu'on markete ça, si je peux dire, comme une langue du travail, une langue monde, et non pas comme une langue communautaire comme c'est fait actuellement. C'est vraiment, enfin, moi, je trouve ça aberrant que en France, il soit plus facile d'apprendre l'italien ou l'allemand, qui sont comparés au portugais, qui sont pas du tout parlés. Le portugais est largement plus parlé que l'italien ou l'allemand. Ouais. Après, je peux comprendre, voilà, c'est les pays voisins, mais honnêtement, J'étais en Allemagne plusieurs fois, et même des amis à moi qui ont appris l'allemand à l'école, quand ils vont en Allemagne, ils ne parlent pas allemand. Même les Allemands parlent très bien anglais, parlent mieux anglais que nous en France. Donc dès qu'on va en Allemagne, on parle anglais très bien, très facilement. Je travaille avec l'Italie régulièrement, j'ai encore été en Italie le mois dernier, et bien sûr on parle aussi anglais sans aucun problème. Donc le portugais devrait être mis en avant, parce que je pense que dans les pays lusophones, la maîtrise de l'anglais, après, bon, là, c'est mon interprétation, on n'est peut-être pas aussi forte, donc du coup, parler portugais est un vrai avantage.
Absolument.
Donc, faut mettre ça en avant.
Oui, on va revenir sur cette question de l'enseignement du portugais en France, mais oui, le portugais est effectivement une langue monde, première langue parlée dans l'hémisphère sud, et langue parlée au-delà du Portugal, donc au Brésil, l'Angola, le Mozambique, le Cap-Vert, Guinée-Bissau, Saint-Tomé-et-Príncipe, Timor-Leste et
Macao.
Ouais. Absolument, voilà, ce sont les 9 territoires.
Et Paris.
Dans le monde, et Paris, qui est un petit bout du Portugal
en dehors du... Paris, Clermont-Ferrand, Genève.
Un petit bout du Portugal en dehors du Portugal. C'est un vrai imagier, je veux dire par là que c'est un vrai livre pour enfants, puisqu'il est... Il est cartonné.
Oui, bien sûr. Bah ça, c'est, enfin, de toute façon, c'est ce que j'aime bien avec Sandra de Cadames Édition, c'est que si on fait les choses, on les fait bien. Et c'est pour ça que j'avais mis un point d'honneur aussi avec ça, avec elle. Et justement, comme elle m'a laissé carte blanche, ça a été vraiment cool de sa part. C'est si on fait les choses, on les fait à fond, on les fait bien. C'est un livre qualitatif qui va résister aux assauts des petits lusophones qui vont, bah, bien sûr, faire vivre le livre, piller les pages, peut-être le mâchouiller, les choses comme ça. Donc c'est un livre cartonné, comme les imagiers qu'on trouve dans le commerce habituellement. Donc c'est un livre qualitatif et c'est pas quelque chose de cheap. L'impression, les illustrations, le papier, tout a été choisi, tout est de qualité. Et vraiment, on a fait tout pour que les petits lusophones justement soient satisfaits d'avoir ce livre et que ça soit un bel objet aussi à offrir à vos petits frères, vos petites sœurs, vos petits cousins, enfin avec à tout le monde autour de vous, que ça soit un beau cadeau à offrir, utile, joli et agréable.
Oui, je confirme, cet imagier des petits lusophones, donc publié chez Cadamos Édition par Thiago Martin, c'est illustré par Roman Mendes, c'est un très 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 beau livre, les illustrations sont magnifiques, il est tout à fait ludique, effectivement il est avant tout dédié aux plus jeunes, vraiment aux enfants, tu disais, à partir de 18 mois.
Ouais, c'est à partir de 18 mois, parce que comme c'est des... Après, parce que voilà, maintenant comme j'ai l'expérience de mon fils, je vois à partir de quel moment il a commencé à s'intéresser à des... Parce que c'est des scènes qui sont quand même assez complexes, il y a beaucoup d'éléments sur les scènes, en dessous de 18 mois ça risque d'être un peu trop fouillis, mais je dis pas que ça marchera pas, en tout cas moi je prends l'expérience comme référentiel mon fils. Et mon fils, j'ai vu que c'est à partir de 18 mois seulement qu'il commençait à comprendre des scènes complexes comme ça. Mmh. Et en plus, tout au long de la création de cet ouvrage, je testais. C'était le bêta-testeur du livre. J'imprimais les premiers croquis que Roman m'avait envoyés et je lui demandais de vérifier, de bien voir, bien comprendre s'il savait ce qu'était le dessin. Et donc, il a suivi l'évolution du livre, il a testé. Et quand il est à la maison, bah, il dit que c'est le livre de papa. Il a bien compris que c'était moi qui avais fait ce livre.
L'imagier des petits lusophones, volume 1, Vive les vacances, validé par Oscar. Mais qui, au-delà des enfants, sera très bien pour ma copine, par exemple, qui parle pas un mot de portugais. C'est une façon pour elle d'apprendre du vocabulaire.
C'est de faire d'une pierre deux coups. Et justement, je suis dans la même situation. Ma femme, la mère de notre fils, est française. Et elle essaie d'apprendre le portugais. Elle fait des efforts quand même pour l'apprendre. Elle le comprend un petit peu. C'est plus le parler qui est compliqué. Mais justement, quand elle a le livre dans les mains et qu'elle le regarde avec mon fils, ça permet d'apprendre le portugais aux deux en même temps.
Et nous allons pour le moment, Thiago, marquer une courte pause. Merci beaucoup d'être branché à l'Alpha 10-13 de Radio Alpha. Éveiller les tout-petits à la langue portugaise, c'est l'objectif de la série L'Imagier des petits lusophones, dont le premier volume est maintenant sorti. Il s'appelle Vive les vacances, un imagier des petits lusophones, imaginé et conçu par Thiago Martin, ce qui est mon invité. Tu vois bien, Thiago ?
Très bien.
Je tiens à préciser que tu ne touches pas un euro pour la vente de cet imagier.
Oui, donc ça, j'ai pas communiqué sur ça, parce que justement, enfin, je veux pas que... Ça soit... En fait, je veux pas de fausse modestie, voilà, c'est mes affaires, on va dire, de mon côté. Mais oui, c'est vrai que j'ai tout de suite dit à l'éditrice que je voulais pas d'argent pour ce livre-là, parce que moi, c'était vraiment une mission pour moi de faire ce livre-là. Je voulais vraiment que ce livre-là sorte. Donc j'ai dit, je ne veux pas toucher d'argent pour ce livre-là. D'une part, parce que je voulais que le prix soit le plus bas possible, que tout le monde puisse se l'offrir. Donc justement, bah, retirer mes droits d'auteur, déjà, ça permet de réduire un peu le prix. Et d'autre part... car je ne fais pas ça pour l'argent vraiment, et donc j'ai convenu avec Sandra que on déterminera une somme de ce qui aurait pu être mes droits d'auteur, et on en fera don à une association que je choisirai, donc on fera le bilan peut-être à la fin de la série pour que ce soit quand même assez plus représentatif. Mais ouais, moi je ne toucherai rien pour ce livre là c'est vraiment par passion et par amour de la langue portugaise et de la culture portugaise que je fais ça.
Et pourquoi tu fais ça? D'où te vient ce sentiment de mission? Je reprends ton mot.
Oui, après mission, ça fait un peu prophétique, c'est peut-être pas le bon mot, mais c'est vraiment. Enfin, voilà. Encore une fois, on va pas faire de fausse modestie, mais je veux pas avoir la grossette non plus. Mais je sais que je peux le faire, que j'ai capacité de le faire, que j'ai les contacts justement, bah, via Sandra, via Roman, j'ai les moyens de le faire. Donc autant le faire. Il y a rien qui existe. Donc au lieu de râler, parce que il y a beaucoup de monde, notamment moi, on râle. Mais au bout d'un moment, faut trouver des solutions. Et donc moi, je sais que j'avais les moyens de mettre en œuvre une solution qui était cette imagée. Donc voilà. Donc râler. Ou d'un moment, faut être constructif, faut proposer des choses. Donc voilà, je râle, mais en même temps, je propose des choses. Donc en gros, j'ai le droit de râler.
Et c'est tout à fait honorable. Je pense que toute la communauté t'est redevable pour cela. Est-ce qu'elle te le rend bien, d'ailleurs?
Oui, bien sûr. Après, je fais pas ça pour les lauriers. Encore une fois, c'est pas de la fausse modestie. Hein. Vraiment, je fais ça par passion, parce que j'aime ça, parce que ça me prend quand même beaucoup. C'est entre mes réseaux sociaux, ça, enfin toutes les petites choses que je fais à droite à gauche, bah, les interviews. Bon, là, j'ai fait que cette interview-là avec toi, mais pour mon premier livre, j'avais accepté beaucoup trop d'interviews. J'ai fait un burn-out, hein, pour pas mentir. L'année dernière, justement, il y a un an, quasiment exactement, j'ai fait un burn-out, parce que entre ma vie de papa, ma vie de mari, mes amis, mon travail, le déménagement, enfin, j'ai accepté trop de trucs, et notamment les interviews, j'ai donné plus de 50 interviews.
Ce qui est beaucoup. Dit,
bah, ouais, c'était énorme, et au bout d'un moment, bah, le corps lâche. Donc maintenant je fais attention quand même, je me ménage un peu, mais c'est plus fort que moi en fait, c'est quelque chose, enfin ça m'habite, c'est vraiment, je crois que je dois avoir un petit côté hyperactif, j'ai toujours besoin je dois toujours être sollicité, toujours être sur des projets, toujours être occupé, parce qu'il y a aussi enfin on en parlera peut-être un autre jour, mais aussi mon projet de street art dans mon village aussi au Portugal. Donc
voilà. Alors, on peut en parler d'ailleurs, raconte-nous ça.
J'ai mis en place il y a quelques années un projet de street art dans mon village au Portugal qui s'appelle Barenta, un petit village. Pour le redynamiser, j'ai invité des artistes du monde entier à m'envoyer des œuvres pour les afficher dans le village. Donc il y a eu deux éditions où j'ai affiché des trucs un peu partout dans le village. Il y a plein de trucs qui sont partis parce que c'était du papier, donc c'était normal, c'était vraiment à usage quasiment unique, ou avec la météo, les escargots, parce que les escargots ont mangé des affiches, ça je m'y attendais pas. Mais entre la météo et voilà, tout ça, ça a fait que c'est parti, mais il reste quand même beaucoup d'œuvres qui sont par exemple de la céramique, des sculptures, des choses comme ça. Et il y a même des artistes qui sont venus peindre des fresques, notamment une concertina gigante qui est là-bas. Et cette année, en fait, il y a 20 ans de ça, ouais, ça va faire 20 ans. Il y a 20 ans de ça, mon père et d'autres personnes du village avaient inauguré une statue dans le village, donc une statue d'une légende du village pour le fondateur du village. Et donc du coup, moi, c'était mon père qui s'occupait aussi un peu de ça, je m'en souviens très bien parce que j'ai aidé aussi à installer cette statue. Et là, ça va être les 20 ans de l'inauguration de cette statue-là. Donc je me suis dit, bah tiens, je vais faire un clin d'œil aux 20 ans de cette statue. Donc j'ai contacté des graphistes du monde entier pour leur demander de réinterpréter cette statue dans leur style. Et donc il y a 8 artistes, donc de Géorgie, d'Italie, enfin d'un peu partout dans le monde, qui m'ont envoyé leurs propositions. Et donc là, j'ai fait imprimer des gros posters plastifiés en vinyle pour que ça tienne dans le temps, qui seront affichés devant cette statue, justement pour le clin d'œil des 20 ans de cette statue, dans la continuité de ce projet Aldea Artistique.
Et donc voilà, ça c'est ton projet de festival street art.
Un de plus
par rapport à tes réseaux sociaux aussi, parce que tu as un compte sur Instagram qui s'appelle Portuguese Facts.
C'est ça. Et donc là, je continue de promouvoir la culture portugaise. Et j'ai aussi mon travail qui me prend beaucoup de temps, surtout ces derniers temps, parce que ça se passe bien au niveau du boulot, donc j'ai beaucoup de boulot et j'ai beaucoup de déplacements, et je mets à chaque fois à profit mes déplacements. Là récemment, j'étais au Qatar par exemple, ou en Italie comme je disais il y a peu, et je mets à profit ces déplacements pour, après le boulot, aller explorer ces villes et essayer de trouver des liens avec le Portugal. Et j'ai publié récemment sur mes réseaux sociaux les liens du Portugal avec Rome, où on voit l'église des Portugais par exemple, et récemment les liens du Portugal avec le Qatar. Et j'étais au musée du Qatar justement pour filmer ce qu'il y avait en lien avec le Portugal au Qatar.
D'une certaine façon, de plus en plus de politique aussi sur Portuguese Facts.
Ouais, j'aime bien pousser des petits coups de gueule, j'aime bien donner mon opinion, parce que bon, c'est mes réseaux sociaux après tout, donc je fais ce que je veux. Surtout que je gagne rien avec mes réseaux sociaux, donc j'ai pas à avoir peur. Enfin voilà, j'ai pas de sponsor, j'ai pas de placement de produit, rien du tout, c'est vraiment mes réseaux sociaux. Donc souvent je donne mon avis sur l'actualité, sur ce que je vois, sur ce que j'aime pas, sur ce que j'aime. Donc et donc là récemment, il y a eu beaucoup d'actualités où j'ai, comme beaucoup de monde, j'ai pris position. Et ouais, ça a pas plu.
Oui, parce que récemment, il y a eu des élections européennes, il y a eu les élections législatives anticipées en France.
Voilà, c'est ça. Et après, on va pas faire dans le cliché, mais c'est vrai que médiatiquement, c'est plus simple de dire qu'on est de gauche, et moi, j'ai plus de valeurs de droite. Et donc, du coup, je m'en cache pas, j'assume parfaitement mes idées.
Oui, tu es un homme de droite et tu l'assumes.
Voilà, je l'assume parfaitement, j'ai pas à avoir honte de ça. Voilà, je suis pas... je suis pas Salazar, je suis pas Hitler, je suis pas Mussolini, je suis juste quelqu'un qui a des valeurs de droite, tout simplement. J'ai la valeur travail, j'ai la valeur conservateur. Enfin oui, je suis assez conservateur, mais voilà, tout ça, c'est des choses que j'assume. Et donc voilà, c'est tout. Et donc, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas cette idée. Et donc, quand je dis que je suis de droite, bah, des fois, j'en prends un peu plein la gueule, si vous pardonnez l'expression. Mais j'ai aucun problème avec ça.
Mais tu es aussi soutenu par plein de personnes de la communauté.
Oui, bien sûr, parce qu'en fait, encore une fois, c'est un peu dans le cliché ce que je vais dire, mais c'est vrai que médiatiquement, la gauche occupe tout le terrain. C'est vrai que tout le temps, tous les discours qu'on entend, c'est des discours de gauche. C'est facile de dire qu'on est de gauche puisque ça fait consensus.
Ouais, enfin, c'est deux choses différentes. C'est facile de dire qu'on est de gauche, mais que la gauche occupe tout le terrain médiatique, c'est discutable.
C'est quand même indéniable que la gauche prend toute la place. Et même les idées, c'est souvent des... Enfin, voilà. Après, moi, j'ai aucun problème avec ça. Moi, justement, je suis ouvert au débat et j'adore le débat. Mais encore faut-il que le débat soit constructif et que les personnes aient envie de débattre. Souvent, c'est les gens veulent avoir raison et donc du coup, bah, je perds pas mon temps à débattre. J'ai reçu beaucoup de messages très agressifs. Je prends même pas la peine de répondre parce que c'est très bien que ça mènera à rien. La personne veut juste avoir raison, donc voilà, je perds pas mon temps, je perds pas mon énergie. Mais quand il y a des personnes, parce que moi, je suis d'accord et je trouve ça agréable même que les gens ne soient pas d'accord avec moi. Moi, je trouve sain. C'est sain de ne pas être d'accord, justement. Et ce que je reproche, et notamment là, dans mes dernières stories qui ont fait un peu polémique, c'est de dire que non, il n'y a pas un discours unique et on peut avoir des opinions différentes et justement, c'est sain, c'est ce qu'il faut. Et y a des gens qui sont pas d'accord avec ça. Parce que ce qu'on m'a reproché, et c'est quand même fou et c'est quand même paradoxal, c'est de faire des stories pour dire votez pour qui vous voulez.
Oui, puisque dans ces stories que tu évoques, tu donnais ton opinion sur l'élection et à la fin tu concluais mais votez pour qui vous voulez.
Et je partage. En plus, j'étais même totalement transparent parce que je partageais même des articles de gauche, de l'Humanité, des choses comme ça, pour que les gens qui me suivent et lisent mes stories aient les deux visions, ma vision des choses et les visions entre guillemets de gauche.
Oui, puisque cette story est partie d'une tribune publiée dans l'Humanité, ouais, effectivement, ça. Sur le site internet de l'Humanité, où des luso-descendants franco-portugais, portugais émigrés ont appelé les gens à faire barrage à l'extrême droite.
Voilà, c'est ça. Et donc il y avait cette tribune. Et en fait, il y avait beaucoup de comptes influents, si je peux dire, dans la communauté, qui ont pris position. Et donc je me suis dit, moi aussi, j'ai le droit de prendre position. Donc
tu es un compte influent de la communauté.
Oui, c'est vrai qu'on peut dire ça, notamment auprès des plus jeunes. Et donc du coup, j'ai pris position aussi parce que tout le monde prenait position et donc moi j'ai pris position aussi pour dire non, il y a pas qu'une vision des choses, faut mettre un peu de contexte. Et donc j'ai apporté du contexte notamment avec mon expérience personnelle. Juste un exemple isolé parce que sinon on est parti pour des heures, mais un exemple isolé avec cette histoire qu'il y avait eu des doubles nationaux qui auraient pas le droit de travailler, etc. Moi ce que je disais c'est juste de mon point de vue personnel, de mon expérience personnelle. Déjà, il y a quelques années, j'ai dû signer des papiers comme quoi j'avais pas telle ou telle nationalité. Même plus loin que ça, je m'engageais à communiquer à l'entreprise et au projet pour lequel je travaillais le fait que même si je voulais partir en vacances dans tel pays, je devais le signaler. Donc ces choses-là existent déjà. C'est déjà la réalité. Donc là, c'est juste ils ont parlé de ça et c'est un pétard mouillé. On a fait toute une histoire autour de ça alors que c'est déjà la réalité. Donc juste, je disais ça. et donc voilà, ouais, il y a eu beaucoup de débats. Donc moi aussi, je voulais prendre position. Donc je me suis fait allumer, j'ai reçu plein de messages agressifs, on m'a traité de facho, on m'a tous les trucs, la caricature. Après oui, il y a des caricatures de tous les côtés, il y a des cons de tous les côtés, ça c'est pour ça. Je n'en veux pas à ces gens-là. Souvent en plus c'est la fougue de la jeunesse, etc. On a ces idéaux de jeunes, si je puis dire. Donc je leur en veux pas, je m'en fous, je passe au-dessus, j'ai le dos large. Mais ce qui m'a surpris, donc recevoir des insultes, des gens qui me disent que j'ai tort, que je comprends rien, blablabla, je m'y attendais. Mais recevoir des messages de soutien, ça je m'y attendais pas. Et vraiment, j'en ai reçu beaucoup plus. Je m'attendais pas du tout à ça. Je me suis pris des centaines et des centaines et des centaines de messages, sans exagérer, de gens qui me soutenaient, qui saluaient mon courage de prendre position, qui se confortaient justement, qui voyant le discours de la communauté, le discours régnant dans la communauté, se sentaient être des extraterrestres parce qu'ils se retrouvaient pas du tout dans les discours qui étaient véhiculés. Donc j'ai reçu beaucoup de messages de remerciements, de gens qui me soutenaient, qui me disaient que j'avais raison, blablabla. Donc ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit, j'ai pas fait ça pour rien.
Je ne suis pas seul.
Et finalement, je suis pas seul. Et même si j'étais seul en soi, moi j'assume parfaitement ce que je pense. Et je trouve ça dommage justement qu'on ait peur de parce que la politique. Après voilà, il y a deux choses. Moi la politique ça me passionne. Mais la politique au sens propre du terme, La réalité de la politique, par contre, me dégoûte.
Oui, la politique partisane te plaît moins.
Voilà. Ce qu'est la
toi,
politique.
Toi, c'est le politique.
Ce qu'est la politique, prendre des décisions de société, des visions d'avenir, faire des choix. Ça, c'est passionnant. Mais ce qu'est la réalité, tout ce théâtre, la comédie dell'arte qu'on voit en permanence, ça me dégoûte. Et même, enfin, voilà. Je fais une petite digression. Et même là, on le voit aujourd'hui, en France, avec les législatives. Au final, tout ça, pourquoi? Pour rien. La présidente de l'Assemblée est la même, le Premier ministre va récemment. Donc voilà, tout ce cinéma au final n'a mené à rien et a fait que plus créer des tensions, diviser la société, des fois briser des amitiés. Moi c'est pas mon cas, mais je sais, j'ai eu écho que voilà, il y a des amitiés qui sont brisées à cause d'opinions politiques divergentes et ça, je trouve ça complètement con.
Oui, je connais des enfants qui se sont fâchés avec leurs parents aussi.
Oui, et c'est dommage d'en arriver là. On devrait pouvoir débattre sainement et pas juste. Il y a pas le bien et le mal. Des fois, c'est plus nuancé que ça. Voilà. Enfin, après, ça, c'est un débat très philosophique. Faudrait plus qu'on en parle sur une séance de 22h minuit autour d'un café.
Tu voudrais faire de la politique un jour? Député des Portugais de l'Europe, par exemple, être attaché parlementaire d'un député portugais, travailler au consulat, à l'ambassade, je ne sais pas.
Honnêtement, ça me plairait, mais j'aimerais bien... Pas dans ce que je vois aujourd'hui. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est vraiment pouvoir faire des choses pour de vrai. Pas juste du blabla, pas juste à laisser derrière des mains, pas juste faire des photos. C'est vraiment faire des choses. C'est pour ça que, sinon, pour le moment, tout ce que je fais, je le fais sans aucun lien avec la politique. Je discute avec tous les politiques qui veulent me rencontrer, j'ai aucun problème, tant de gauche, tant de droite. Moi, j'ai aucun souci, je parle à tout le monde. Mais pour le moment, je préfère rester un peu apartisan pour pouvoir faire tout ce que je fais, pour pas avoir d'étiquette justement politique. Même si ceux qui me suivent savent que voilà, j'ai plus des affinités de droite, mais pour le moment voilà, tout ce que je fais, ça a rien à voir avec la politique, c'est vraiment dans le but, dans le bien commun, pour le bien commun. Et si un jour je fais de la politique, bah faudrait que déjà le système politique change beaucoup et que ça soit vraiment que la politique pense aux gens plus qu'à leur carrière.
Et en tout cas, tu fais de beaux gestes politiques, puisque c'en est la publication de plusieurs de tes ouvrages. L'histoire du Portugal de mon assiette, c'était déjà un geste politique. Et maintenant, la publication de ce premier volume de l'imagier des petits lusophones qui s'appelle Vive les vacances, c'est aussi politique, puisque c'est un geste concret qui va bénéficier à la communauté portugaise en France.
Oui, voilà. Et c'est vraiment... C'est vrai qu'en soi, c'est de la politique, oui, clairement. De toute façon, à partir du moment où je choisis de parler de telle ou telle chose, où je choisis d'illustrer telle ou telle chose, c'est prendre des positions, c'est faire des choix. Et de toute façon, la vie, c'est faire des choix. Et oui, c'est de la politique. Et c'est vrai que c'est de la politique. Et en fait, même politique, ça serait intéressez-vous au Portugal, intéressez-vous aux origines, intéressez-vous à notre culture, à notre langue. Et c'est tout à fait compatible avec le fait de vivre sereinement en France et d'être épanoui dans cette double culture. Mais on peut avoir être très attaché, comme je le suis, à nos origines. Je me sens portugais, c'est même pas mes origines, je me sens portugais, je suis portugais, je suis aussi français et je le vis très bien.
Et tu prends des positions aussi dans ta commune.
Oui, oui, c'est vrai. À celle-ci, je n'y attendais pas, mais on peut en parler, il n'y a aucun souci. Oui, j'habite depuis peu à Boissy-Saint-Léger. Depuis deux ans, en fait, quand mon fils est né, quand ma femme a été enceinte, on habitait Paris, on adorait Paris, parce que moi je suis né à Paris, j'ai toujours vécu à Paris, parce que je suis un amoureux de Paris. Mais la réalité financière des choses fait que pour acheter un appartement avec trois chambres à Paris, c'est impossible.
Hors de prix.
Donc voilà, parce que moi je voulais acheter. Et je voulais acheter trois chambres directement parce que mes beaux-parents sont pas de la région, donc quand ils viennent c'était pour avoir une chambre en plus et pour plus tard si jamais je voulais un deuxième enfant, comme ça moi c'était fait. Donc on a fait le choix d'acheter un trois pièces et par élimination on en est arrivé à Boissy. Après Boissy, mes parents ont un pied à terre à Boissy, ma sœur habite déjà à Boissy, c'est une région que je connaissais, il y a le RER A. Moi je travaillais à la Défense, donc c'est un
très
choix
utile,
ouais. Voilà, c'était pas un choix par défaut, mais c'était quand même un choix. Enfin moi, si je pouvais rester vivre à Paris, je serais resté vivre à Paris. Mais voilà, donc c'est un choix à proximité de la forêt et tout ça, a fait que j'ai été là-bas. Et donc là, ça fait deux ans que j'y habite. Au bout d'un an, j'avais déjà écrit au maire de Boissy-Saint-Léger pour lui faire part des choses que je trouvais un peu dommage.
À peine arrivé, une lettre au maire, direct.
Non, c'est son boulot au maire, justement. Quand je dis que les politiques, leur boulot, c'est de s'occuper de leur population, c'est le cas. Donc j'ai pris la liberté d'écrire au maire en disant voilà, il y a des choses que j'aime, donc j'ai dit, c'est des choses que j'aime. Encore une fois. Moi, c'est quand même une valeur que mon père m'a transmise. J'aime bien être droit. Donc, quand il y a des choses qui vont bien, faut le dire. Quand il y a des choses qui vont pas bien, faut le dire. Mais je reconnais des, par exemple, justement, on disait que je suis plus de droite que plus de gauche. Je reconnais qu'il y a des choses bien dans la gauche aussi. Donc, faut reconnaître ce qui est bien, reconnaître ce qui est mauvais. Faut être droit. Moi, c'est ça. Moi, j'aime bien quelqu'un de droit, honnête, franc. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait mon devoir de citoyen et de résident de Boissy-Saint-Léger. J'ai dit voilà, ça j'aime bien, ça j'aime pas. Et donc le maire n'était pas habitué à ce genre de choses, donc il m'a dit bah je serais d'accord pour vous recevoir, pour discuter, sans avec des conseillers. Donc il m'avait reçu, on avait échangé, c'était agréable. Un an passe, la situation s'est un peu empirée dans certains trucs, mais Boissy, ça pourrait être un peu l'exemple de ce qui se passe en France de façon générale. Il y a quand même l'insécurité, la propreté. Enfin voilà, il y a plein de choses. Par exemple, moi, ça me rendait hors de moi, ça me rendait fou de sortir de la crèche de mon fils avec sa trottinette et de passer devant des groupes de lascars qui fument des joints dans la plus grande impunité et de le signaler à chaque fois et qu'il y a rien qui bouge. Moi, enfin, pour moi, c'est pas normal. C'est pas quelque chose de normal. Je devrais pouvoir rentrer avec mon fils tranquille chez moi sans devoir slalomer entre des alcooliques qui errent là, des mecs qui fument des joints, des bouteilles cassées par terre. Enfin, c'est pas la vie que je veux pour mon fils. Et donc, comme je disais tout à l'heure, je râle, mais je me bouge le cul aussi. Désolé, voilà, je m'emporte un peu, mais je me bouge aussi le cul pour essayer d'améliorer les choses. Donc, j'ai écrit au maire, j'ai écrit à la police, j'ai signalé tous les jours, j'ai envoyé des photos du coup en disant voilà. J'ai fait du forcing, j'ai lancé une pétition publique pour essayer de bouger les choses. Donc voilà, quand une situation me convient pas, je fais tout ce que je peux pour l'améliorer. Et là, c'est ma qualité de vie, la qualité de vie de mon fils qui ne va pas. Et donc, je fais tout ce que je peux pour améliorer ça.
Thiago Martins, c'est un homme de l'action. Selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait changer dans la communauté portugaise en France ?
Déjà, admettre que la communauté n'existe pas. C'est un microcosme.
C'est-à-dire ?
Voilà, c'est un microcosme. Il y a plein de choses qui nous unissent, mais on n'est pas une communauté. Il y a beaucoup de divergences. Chacun ses intérêts. Chacun et en soi, on ne fait pas bloc. Ce qui nous unit, c'est le fait d'être portugais. Mais c'est tout. Ça s'arrête là. Donc, parler de communauté, je suis pas. C'est le mot facile, donc même moi je l'utilise, hein, tout le monde l'utilise, mais il faut admettre qu'elle n'existe pas et qu'elle est en voie de disparition.
C'est-à-dire que tu vois plutôt les Portugais en France comme des individus les uns à côté des autres et qui partagent tous en fait la même langue, mais qui ne font pas bloc.
Et qui font plein de petits groupes, mais pas bloc. Il y a des petits groupes.
Tu parles des diverses associations.
Voilà, par exemple les diverses associations, les différents intérêts. C'est pareil, il y a aussi une fracture entre guillemets les élites qui se retrouvent tout ensemble dans certains types d'événements et les autres, quoi, en gros, grossièrement, les classes plus populaires qui se retrouvent dans le foot, dans le folklore, dans les associations diverses qu'il y a. Je critique pas, hein, c'est un constat.
Mm-hmm. Mais après, ce constat, on peut le faire à toutes les sociétés. C'est ce qu'on appelle depuis longtemps la lutte des classes.
Oui, bien sûr. Il y a pas de bloc et surtout il y a pas de vision commune et il y a trop de guéguerre d'intérêt. Parce que maintenant, du coup, le fait de connaître quand même plus de monde, voir de mes yeux ce qui se passe. Il y a pas grand monde. Enfin, moi, c'est mon sentiment, ça n'engage que moi. Mais personne ne pense à l'intérêt commun. Chacun pense à l'intérêt de sa petite asso, de son petit groupe, à sa carrière, des fois à sa tête. Mais il y a rien qui est vraiment fait. Enfin, c'est mon sentiment pour l'intérêt commun. Et il y a eu des loupés. Notamment par la langue portugaise. La langue portugaise, si on en revient à ça, c'est quand même pour moi le plus gros loupé. On arrive toujours à rien faire avec la langue portugaise. On n'arrive pas à même ne serait-ce qu'à inclure aussi le Brésil, parce que le Brésil devrait être quand même le porte-étendard de la langue portugaise. C'est quand même eux qui parlent le plus portugais. Mais voilà, je sais pas, ils font bande à part. On les entend jamais au sujet de la langue portugaise. J'ai l'impression que nous, de notre côté, on fait rien aussi pour leur dire allez, venez, on essaie de promouvoir la langue. Il y a aucune. J'ai jamais vu. Après, peut-être que je me trompe. Ou peut-être que je l'ai loupé, mais vu comment je suis accro à mon téléphone, je ne pense pas avoir loupé quelque chose. J'ai jamais vu une seule communication de promotion de la langue portugaise à l'échelle nationale. Il y a rien qui est organisé pour savoir dans quelles écoles je peux apprendre le portugais ou est-ce que je peux inscrire. Il y a eu un tableau Excel qui a circulé un peu comme ça de main en main.
Oui, réalisé par Miguel Mendes de Portugal à l'époque.
Mais il y a rien. Enfin voilà, les sites institutionnels, que ce soit le site du consulat, le site du Cameroun, le site de l'ambassade, tous les sites sont vieillots, ils sont pas pratiques, sont pas ludiques. Enfin voilà, tout en gros, moi je souhaite bien du courage. Après, c'est pas impossible, hein. Faut pas être non plus pessimiste. Il y a la possibilité d'apprendre le portugais. Mais faut que les parents soient faut vraiment qu'il y ait une vraie volonté de la part des parents que leur fils fasse du portugais. Et c'est pas aussi simple que de faire une croix par exemple dans un formulaire en disant voilà, je veux que mon fils apprenne le portugais et donc je pense qu'il faut batailler, qu'il faut continuer à se battre pour promouvoir la langue portugaise et il faut surtout les gens dont c'est le métier, parce qu'il y a quand même des institutions, il y a quand même des députés, des choses comme ça, ce serait eux d'être les premiers à aller au clash. Il y a eu une lettre comme ça qui est partie au ministre de l'Éducation, mais je pense qu'il n'y a jamais eu de réponse, il n'y a jamais eu de suite. Il y a eu une pétition qui a été faite aussi d'un côté, mais voilà, sans suite. Donc des fois, il y a des petits trucs qui pop, mais sans suivi. Et moi, ce que je dis, faut être chiant, quoi. Faut écrire, il y a pas de réponse. On relance. Faut peut-être que nous aussi, De notre côté, on s'organise.
Oui, c'est ce que j'allais te demander, ouais. Puisque tu appelles à la création finalement d'un horizon commun. Il faut que tous les Portugais de France puissent regarder dans une même direction et aller ensemble vers l'amélioration de cette communauté, l'entraide, la transmission, oui. Etc. Et mais où se trouve la solution donc?
Ah ben je ne dis pas que j'ai la solution à tout. Hein. Et c'est justement c'est là où est la complexité. C'est justement peut-être que qu'on réfléchisse ensemble parce que ce que je constate aussi. C'est que des gens de ma génération, de ta génération, il y en a aussi énormément qui ne se retrouvent plus dans cette communauté, si on peut dire, et qui du coup s'éloignent complètement de ça. Donc ils sont portugais, mais voilà, ils ont pas vraiment de lien. Ils le parlent souvent, ils aiment bien la nourriture portugaise, ils regardent un peu les matchs de foot, mais à part ça, il y a rien qui est fait pour eux. Soit d'un côté, c'est des événements qui sont très populaires, et donc du coup, par exemple, même moi, même si j'ai connu les Rancho Folclore et que fait tout ça, et que c'est bien qu'il y en ait. Bah des fois on n'aime pas, voilà, c'est tout simplement moi j'aime pas le folklore, c'est un fait, je respecte ça, de temps en temps j'aime bien, mais c'est pas un truc, je me vois pas aller tous les week-ends au folklore. Et donc d'un côté il y a les événements populaires, si je peux, sans mépris de classe ou quoi, hein, c'est juste un constat.
Oui, factuellement populaire.
Il y a les événements populaires où il y a des événements très élitistes où si on n'est pas dans des grilles de diffusion ou invité ou des trucs comme ça, bon, on n'y a pas accès, donc bah du coup à ça non plus on peut pas y aller, et donc il y a rien. Donc à part les matchs de foot tous les deux ans avec le mondial ou l'euro, bah, il y a pas d'événement vraiment qui permet de se retrouver dans cette communauté. Et justement, bah, c'est là que les cours de portugais. Enfin, moi, par exemple, je le vois. J'ai été en cours de portugais à la CEP, l'association portugaise d'enseignement de la langue à Paris.
À Fénelon.
À Fénelon, ouais. Et quand je discute autour de moi, il y a énormément de monde qui est passé par cette école-là. Et pour moi, cette école a justement m'a permis de créer du lien, parce que du coup, bah, c'était beaucoup de Portugais qui étaient là-bas, donc il y avait plusieurs classes, plusieurs niveaux, et donc c'était quelque chose quand même qui nous permettait de nous retrouver, d'échanger, de tisser des amitiés que j'ai toujours aujourd'hui. Il y a toujours des gens que je connais, justement, que je connais par rapport à l'école portugaise.
Oui, ce qui nous manque, en fait, c'est de l'en commun. Il faut qu'on crée un espace où tout le monde, de tout âge, tout horizon, toute origine, toute classe sociale, puisse se retrouver.
Et quoi de mieux que l'école pour ça?
Et l'enseignement de la langue.
Et l'enseignement de la langue, ouais.
Surtout que au Portugal, on a un rapport à la lusophonie qui est très important. Ça veut dire quelque chose, la lusophonie. La francophonie a moins d'importance en France que la lusophonie n'en a au Portugal. Il existe une communauté des pays lusophones dans le monde, quand même.
Oui, parce que c'est vrai que, enfin, si on fait les parallèles avec la francophonie, encore une fois, ça n'engage que moi. Tout ce que je dis n'engage que moi, de toute façon. Je représente personne, je représente que moi-même. Mais la francophonie, je trouve qu'il y a un peu, du côté francophone, un peu un mépris des autres pays qui parlent le français. Par exemple, le pays qui parle le plus, si je me dis pas de conneries, le pays qui parle le plus français, c'est le Mali. Ou Congo, je sais plus. Mais voilà, il y a un de ces pays-là qui est plus peuplé que la France, donc en théorie, parle plus français qu'en France. Et pourtant, ici, les Français ne mettent pas ça en avant. Alors que nous, au Portugal, on est pragmatique. Oui, le Brésil parle plus portugais qu'au Portugal. Et oui, comme tu disais, il y a vraiment.
Oui, puis on le subit aussi un peu quand on va faire une recherche sur Internet, quand on essaie de s'exprimer avec l'intelligence artificielle, elle nous répond en portugais, mais avec un accent brésilien. Le brésilien a effectivement pris un peu la place du portugais, malheureusement.
Le brésilien n'existe pas, ça va déjà.
Je précise bien brésilien, puisqu'il y a un vocabulaire, il y a un accent, il y a des mots qui n'existent pas au Portugal et qui sont proprement brésiliens. Des tournures de phrases aussi.
Mais c'est pareil, du coup, avec l'espagnol, avec l'Amérique latine.
Oui, il y a des particularismes.
Oui, oui. Bah, d'ailleurs, pour revenir à Imagier, je m'étais posé la question d'inclure le portugais brésilien dans le livre. Et donc, au début, mes premiers essais, j'avais mis, par exemple, Omnibus, banheiro, voilà, donc j'avais mis les mais après je me suis dit, ça fait quand même beaucoup
abacaxi,
j'ai recontextualisé, je me suis dit, non, le livre quand même s'adresse essentiellement, encore une fois, le pragmatisme, faut être réaliste, je sais très bien que c'est plus des gens de la communauté portugaise qui vont acheter ce livre dans la grande majorité, donc voilà, le livre est destiné à eux, et pour des enfants de 18 mois, lui dire OK, bon, on dit ça en français, on dit ça en portugais, et en plus on dit ça encore en plus dans le portugais du Brésil, je me suis dit, non, on va rester focus. Le livre s'adresse quand même essentiellement à la communauté portugaise, donc français et portugais du Portugal. Mais je m'étais posé la question aussi.
Peut-être dans le volume 4, puisque le volume 4, ce sera un tour du monde, il sera axé sur la lusophonie.
C'est vrai que ça pourrait être intéressant à ce moment-là de le faire, et avec quelques variantes à droite à gauche.
Et mettre les particularismes aussi de l'Angola, par exemple, de l'Afrique lusophone.
Non, mais c'est quelque chose que j'ai en tête. Mais là, pour ces premiers volumes, en tout cas, comme le public cible est quand même portugais, il faut rester sur le portugais Portugal.
Éveiller les tout-petits à la langue portugaise, c'est l'objectif de cet imagier des petits lusophones. Il y aura 4 volumes. Le premier volume est déjà entre mes mains. Il s'appelle « Vive les vacances », une histoire pleine de références culturelles par Tiago Martins, mon invité, illustré par l'excellente Roman Mendes. Le volume 2 apparaître à Noël à peu près ?
Ouais, c'est ça, aux alentours de Noël, oui.
Volume 2, découvrons le Portugal. Volume 3, voyage dans le temps. Volume 4, le tour du monde.
Et d'ailleurs, bah, tu peux le dire, je t'ai montré en avant-première quelques croquis du volume en cours.
J'ai vu en avant-première, avant même l'éditrice Sandra Kennedy d'Acosta. J'ai vu en avant-première effectivement quelques croquis de ce volume 2 qui sortira donc en décembre pendant la période de Noël, natalicia comme on dit en portugais. Découvrons le Portugal, l'imagier des petits lusophones, c'est aux éditions Cadamost édition, ça coûte 11,90€, ça vaut vraiment le coup, c'est un très bel ouvrage pour les enfants à partir de 18 mois. Même avant, testez-le.
Même avant, oui.
Pour les copines qui ne parlent pas français, pour les copains portugais, pardon, pour les copains qui ne parlent pas portugais non plus, ce livre est un pur bijou et les dessins sont fantastiques. Merci beaucoup, Thiago.
Merci à toi,
pour
merci
ce travail.
Et à bientôt, on se revoit pour le volume 2.
Absolument. Je tiens à préciser que tu étais venu en juin dernier ici, le 29 juin 2023, tu étais venu nous parler de l'histoire du Portugal et du prix que tu avais remporté, le prix du meilleur livre au monde de cuisine et culture portugaise. C'était au Gourmand World Cookbook Awards,
fondé
en 1995, et donc tu avais remporté le prix fin mai 2023. Tu étais venu nous en parler, et juste après tu avais fait un burn-out. Dis-nous là, tout va bien?
Oui, oui, là, je suis en pleine forme, et en plus les vacances vont arriver et tout. Non, mais j'ai pris du recul, une fois que ça m'est arrivé. En fait, le truc, c'est, j'ai toujours pensé que je serais au-dessus de ça, et je comprenais pas vraiment les gens qui faisaient burn-out. Je me disais, ils ont qu'à faire attention, et une fois que je me suis pris, j'ai changé d'avis, et le plus dur, ça a été de l'admettre. Et une fois que j'ai admis que je suis pas plus fort que les autres, ça a été mieux, et après, il y a eu les vacances, mais là, maintenant, ça va, et ça m'a servi de leçon.
Pas plus fort que les autres, mais quand même, l'histoire du Portugal dans mon assiette aux éditions Cadamost, l'imagier des petits lusophones, volume 1, vive les vacances aussi, chez Cadamost édition, fondateur du compte Instagram Portuguese Fact, avec plus de 18 000 abonnés?
16 000, parce que 16 000. J'en ai perdu quelques-uns.
Perdu quelques-uns, ils sont allés faire un tour, ils reviendront très certainement. Merci pour tout, Thiago.
Merci à toi, merci à Radio Alpha encore une fois.